Chapitre 21.
Ça fait presque une nuit et un jour qu'on zone dans cette cabane, chuchota Sylvain. On pourrait peut-être sortir de là avant de crever de faim et de soif, non?
Un rayon de lumière tombait d'un réverbère planté sur le trottoir et se faufilait par les interstices du volet vermoulu. Le visage de Sylvain s'était évidé, ses cernes creusées, ses pommettes déjà saillantes encore accentuées. Edmé la trouvait de plus en plus attirante. Ils avaient vécu le pire ensemble. Le temps venait de songer au meilleur. Le chalet puait le poisson, la graisse et l'huile de vidange. Des cannes à pêche de toute taille, des épuisettes, des outils, un établi et un bateau à moteur garnissaient le local qui servait de hangar et d'atelier au propriétaire de la maison, absent à en croire les volets métalliques tirés sur toutes les ouvertures et la hauteur de l'herbe du jardin. Il en reste sans doute deux ou trois dans les parages.
On a un flingue, non?
Un flingue? Ouais. Contre cinq ou six. Écoute, Sylvaine, on a eu de la chance de sortir indemne de leurs griffes. Ce serait dommage de la gâcher par excès de précipitation, tu crois pas? Le mutisme de Sylvaine valait acquiescement. À aucun moment les tueurs n'avaient songé à fouiller le chalet. Une fois à l'intérieur, Edmé avait eu l'idée de refermer le verrou de la porte à l'aide d'un fil de fer glissé entre les planches de bois. Il avait enfilé l'extrémité tordue en boucle dans la poignée métallique verticale et tiré délicatement le verrou. Puis il avait dégagé et rentré le fil de fer. Il avait ensuite imploré le ciel, vestige du prime conditionnement catholique, d'effacer les éventuelles traces de leur passage sur la clôture ou dans le jardin. Les poursuivants étaient passés tout près. Les deux flics, respiration suspendue, avaient entendu les frôlements de leurs vêtements sur les grilles de la clôture, les craquements de leurs semelles sur les graviers, leurs grognements de dépit. Les tueurs s'étaient éloignés, étaient revenus dans les parages une heure plus tard, avaient de nouveau exploré le quartier. La lumière du réverbère s'était insinuée dans les nombreux interstices pour éclairer avec parcimonie l'intérieur du chalet.
« Je donnerais 10 ans de ma vie pour prendre un bain brûlant, » murmura Sylvain.
« Et moi, 10 supplémentaires pour le prendre avec toi, » renchérit Edmé. « Ça nous ferait 20 ans de plus d'un seul coup. » Et sans doute une place au cimetière pour moi.
Elle caressa avec délicatesse le visage d'Edmé. Il ferma les yeux pour jouir de la chaleur bienfaisante semée sur sa peau. Les douleurs s'étaient réveillées au cours de la nuit, multiples, mordantes, accentuées par l'inconfort de leur situation. Les plaies et les hématomes n'épargnaient aucune partie de leur corps. Ils avaient tenté de dormir à tour de rôle, mais au moment où il avait enfin sombré dans le sommeil, couché en chien de fusil le long du bateau, Sylvain l'avait réveillé en lui disant qu'il ronflait comme une locomotive et qu'il risquait d'attirer l'attention de leurs poursuivants.
Il n'aimait pas qu'une femme lui reproche ses ronflements. Son ancienne femme ronflait, elle aussi, et il n'avait jamais eu l'indélicatesse de le lui révéler. Sylvain ronflait, elle aussi, mais de façon légère, presque musicale, et il l'avait laissé dormir jusqu'à l'aube.
On attend que la nuit soit tombée et on sort, d'accord?
Elle hocha la tête avec une énergie communicative.
Ils doivent être partis maintenant.
Je n'en suis pas si sûr. Ces salopards ne laissent rien au hasard.
Il y a du monde dans le coin. Ils n'oseront pas se montrer.
Ils peuvent nous suivre et nous régler notre compte dans un endroit tranquille.
Ils viennent d'où, tous ces cadavres, à ton avis, Edmé?
Il se posa sur le rebord du bateau qui oscilla et grinça sous son poids, se concentra sur les bruits s'entremêlant autour d'eux, les grondements lointains ou proches des moteurs des voitures, les bavardages des voisins ou des passants, les ahans réguliers des rameurs sur la Marne, le bourdonnement permanent de Paris.
« J'en sais foutre rien, » répondit-il.
M'étonnerait que les légistes aient trouvé le moindre rapport entre eux. Les tueurs en série agissent seuls d'habitude. Ils s'arrangent pour qu'on parle d'eux dans les médias.
Là, on dirait une association de psychopathes anonymes,
fondée depuis un bon bout de temps, vu l'état de certains cadavres.
Il se releva et colla son œil contre un interstice de 5 mm de largeur. De là, on n'apercevait qu'un coin du jardin et, au-dessus de la clôture, la façade du pavillon voisin. Une silhouette, toujours la même, se découpait régulièrement dans les deux fenêtres éclairées et la baie du balcon. Une vieille femme, menue, à l'allure et aux gestes économes. On distinguait également les couleurs vives et changeantes d'un écran de télévision dont le son criard transperçait le verre.
« On dirait que ces tarés prennent leur pied à observer la souffrance sous toutes ses formes », reprit-il d'une voix sourde.
Un peu comme les toubibs des anciens temps, tu sais, ceux qui volaient les cadavres dans les cimetières pour les disséquer. La question reste de savoir sur quels critères ils choisissent leurs victimes.
La réponse est sans doute quelque part dans leur pavillon, avança Sylvain.
À mon avis, on ne trouvera rien d'autre que des pièces vides, et pas une empreinte à se mettre sous la dent.
Ils auront forcément laissé quelque chose, des cheveux, des ongles, de la salive, du sperme, du sang.
Sans doute, mais si leur ADN n'est pas entré dans le fichier génétique, ça ne servira pas à grand-chose.
Le mec que tu as étranglé, par exemple, il était incapable de se contrôler. Et puis, ils n'ont pas pu nous empêcher de nous barrer. Ils ne maîtrisent pas tous ces fêlés.
Edmé recula et essaya de détendre sa nuque et ses trapèzes avec des mouvements de tête circulaire. Les mots peinaient à se frayer un passage dans sa gorge sèche. La faim lui tordait le ventre. Il se frotta la joue. Sa barbe dure crissa sur le dos de ses doigts. Sylvaine lui avait fait remarquer avec un brin de malice qu'elle était presque blanche. Elle avait ajouté qu'elle trouvait ça charmant. Sexy, même.
Tu as raison, Miss Procédurière. Faudra fouiller cette baraque de fond en comble et voir ce qu'elle a dans le bide.
Ils décidèrent de sortir de leur refuge quand la lumière du réverbère fut éteinte. Sylvain tendit le revolver à Edmé. Elle avait tiré deux fois lors de leur fuite. Il leur restait 4 balles. Par chance, le vent avait tendu un épais rideau de nuages sur le ciel, les formes lugubres des pavillons émergeaient difficilement des ténèbres tièdes. Edmé déverrouilla la porte du chalet avec le système artisanal qu'il avait utilisé pour la refermer. Elle s'ouvrit avec un interminable couinement qui parut retentir jusqu'aux confins de l'univers. Les courants d'air montaient de la marne, dispersant une odeur de vase. Par-dessus la clôture, ils scrutèrent la ruelle étroite et baignée d'obscurité qui séparait le jardin du pavillon de la voisine. Puis, plus loin, la route large et bordée d'arbres longeant le quai, et au-delà, la surface sombre et luisante de la rivière. Les environs semblaient calmes. Trop calmes. Pris de vertige, Edmé serra les dents pour ne pas défaillir. Manque de sucre encore. Il se demanda brièvement s'il n'était pas rongé par le diabète. Un mal souvent associé au vieillissement.
« On y va ?» lança Sylvain.
Il passa le premier, puisqu'il tenait le flingue et qu'il était un homme. Franchit la clôture avec toute la souplesse et l'énergie dont il était encore capable, se retrouva vacillant de l'autre côté, le souffle coupé, les muscles en chiffon, à peine la force de rester debout, de lever le revolver, de tourner la tête en direction de la route principale. « Tu parles d'un homme ?» Ne pas s'évanouir maintenant. Sylvain le rejoignit, teint blême, très défait, pas beaucoup plus vaillante que lui.
« On n'est pas frais tous les deux, hein ?» soupira-t-elle. « Ça doit être affreux à voir. Heureusement qu'il fait nuit. »
Edmé la rassura d'une caresse sur la joue. Ils parcoururent la 20aine de mètres qui les séparaient de la route, vérifièrent qu'aucune silhouette suspecte ne rôdait dans l'obscurité. Se reculèrent quand une voiture déboucha sur leur gauche et que la lumière éblouissante de ses phares frappa les troncs d'arbres, les branches basses, les murets, les façades et le quai proche.
Par où on va ? Demanda Sylvain. On essaie de retrouver la bagnole ?
On n'a plus les clés. Et puis, c'est là qu'ils nous attendent s'ils ne nous l'ont pas déjà enlevé.
Ils résolurent finalement de marcher vers le centre de Nogent-sur-Marne, en espérant trouver rapidement le commissariat. Ou croiser une voiture de patrouille. Ils s'engagèrent sur la route qui longeait les quais pavés, passèrent sous le gigantesque pont autoroutier et se dirigèrent vers les lumières de la ville. Edmé avait glissé le flingue dans la poche de sa veste tout en gardant la main posée sur la crosse et l'index replié dans le pontet.
On n'est pas du bon côté.
Sylvain avait raison. La rive qu'il longeait s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Les lumières brillaient sur l'autre bord de la rivière. Parent de copeaux d'or, l'eau tremblotante. «
Tu crois qu'il y a un pont ou une passerelle plus loin ?
Edmé haussa les épaules.
J'en sais foutre rien. C'est quand même dingue d'être si près de Paris et si loin de tout.
C'est ça, la ville. Des millions de gens qui se frôlent et sont à des années-lumière les uns des autres.
T'aurais pas fait astronomie dans un lycée de province, toi ?
Elle eut un rire nerveux.
Une vraie campagnarde. Je suis né dans un bled de la Creuse et j'en ai pas bougé avant mes 18 ans.
Tu y retournes des fois ?
Une fois par an, pas plus. Pas envie d'entendre ma mère me demander quand est-ce que je lui ramènerai un mari et un gosse.
Toi et moi, on a un point commun, finalement. On est des branches mortes.
Il vit, malgré l'obscurité, se rembrunir le visage de Sylvaine.
Au moins, on pourra pas nous reprocher d'être responsables de la surpopulation. Foutre des gosses dans un pareil merdier, non merci.
Elle le regrettait, c'était évident. Ils marchèrent un moment en silence avant de se heurter à une clôture infranchissable. Une base militaire, peut-être, ou un transfo EDF. Ils la contournèrent, se perdirent dans les ruelles et les allées de terre qui desservaient des pavillons enfouis dans la végétation, protégés par de hauts murs et des alarmes sophistiquées. Sylvaine en désigna un. On n'a qu'à sonner et demander à un habitant la permission d'utiliser son téléphone.
M'étonnerait que ces trouillards nous ouvrent la porte de leur bunker. On peut toujours essayer.
Sylvaine pressa la sonnette blanche fixée sur le pilastre d'un portail métallique plein. Un projecteur s'alluma au-dessus d'eux et les emprisonna dans son halo aveuglant tandis que retentissait le grésillement caractéristique d'une caméra de surveillance.
« Qu'est-ce que vous voulez ?» gronda une voix nasillarde.
« Nous sommes en panne dans le coin et nous avons besoin de téléphoner, » expliqua calmement Sylvaine.
« Vous n'avez pas de portable ?»
On ne vous aurait pas dérangé si on en avait un.
Il y a les cabines plus loin.
Sylvaine écarta les bras. Écoutez, on veut juste téléphoner. C'est urgent.
Ils disent tout ça. Foutez le camp, j'appelle la police.
D'accord. Appelez-la et dites aux flics que deux membres de la brigade criminelle les attendent devant votre foutu portail. Pendant quelques secondes, seule la respiration saccadée de leur interlocuteur tomba du haut-parleur invisible.
Fichez le camp, je vous dis!
Le projecteur s'éteignit. La nuit escamota la grille. Le grésillement du haut-parleur s'interrompit. Le silence retomba sur les lieux, bercé par les murmures de la brise, le frisli des arbres et le babil de la rivière en contrebas. Sylvaine tapa du pied sur la terre de l'allée.
« Le con, le con, le con !»
Un mouvement dans l'obscurité attira l'attention d'Edmé qui s'arma du revolver et déverrouilla le cran de sûreté.
Tu as envie de lui faire la peau à cet enfoiré, Edmé ?
On dirait qu'il y a quelque chose par là. Elle se tourna vers l'endroit désigné par son équipier. Je vois rien. Un craquement retentit du côté opposé, suivi d'un léger cliquetis. Edmé poussa violemment Sylvaine par l'épaule juste avant qu'une lueur rageuse déchire la nuit, accompagnée d'un hoquet étouffé, caractéristique d'un silencieux. La balle percuta le portail dans un tintement de gong. Edmé se jeta à terre, entrevit la forme allongée de son équipière quelques mètres plus loin. Une deuxième balle miaula au-dessus de lui, ricocha sur le sol. Il lui sembla percevoir une autre lueur, un autre sifflement, un autre impact. Il visa le coin d'où avait surgi le tir et pressa la détente. La détonation résonna avec la puissance d'un coup de tonnerre. Une silhouette se détacha de la nuit. Il comprit qu'il l'avait touché lorsqu'il la vit vaciller et s'affaisser avec un gémissement sourd.
« Reste à terre !» cria-t-il à Sylvaine.
Le tueur n'était pas venu seul. Le mouvement qu'il avait perçu quelques secondes plus tôt n'était pas une illusion. La crosse du magnum lui brûlait la paume, l'odeur de poudre lui piquait les narines. Son coup de feu avait étouffé les autres bruits. Il sentait sur son visage la pression caractéristique d'un regard. Il était dans la ligne de mire. Le tueur allait le tirer comme un lapin, puis dégommer Sylvaine avec la même froideur. Où était-il, bon Dieu ? Qu'est-ce qu'il attendait ? Est-ce que ce salopard jouissait de la terreur de ses proies ? Les nerfs à vif, Edmé le repéra enfin sous un arbre, une vingtaine de mètres plus bas, curieusement agité, comme secoué de tremblements. Pas en position de tir, en tout cas. Il semblait avoir des ennuis avec son flingue, peut-être enrayé. Une arme sophistiquée, bourrée d'électronique, sujette au bog. Edmé se redressa et hurla
« Bouge plus !»
L'autre prit ses jambes à son cou et s'évanouit dans les ténèbres. Le bruit de ses pas décrut rapidement.
Edmé renonça à presser la détente, d'abord parce qu'il n'avait pratiquement aucune chance de le toucher dans une telle poids, ensuite parce qu'il ne lui restait plus que 3 balles et qu'il valait mieux les réserver à un meilleur usage.
« Ça va ?»
Sylvain ne répondit pas. Inquiet, il scruta brièvement la nuit avant de se précipiter vers son équipière. Allongée sur le dos, elle ne bougeait pas. Elle le fixait d'un regard vide, inexpressif. Il l'examina. Pas de blessure apparente. « Sylvaine, ça va ?» Elle eut une infime crispation des lèvres. Elle essayait de parler. Elle n'en avait plus la force. Un mouvement lent et silencieux le long de sa hanche attira l'attention d'Edmé. Une flaque. Elle baignait dans son sang. Cette incapacité à esquisser le moindre geste, à prononcer le moindre mot. Elle avait été touchée dans le dos, certainement dans la colonne. Il étouffa un hurlement de révolte. Pas elle. Pas maintenant. Pas comme ça. Son cœur cognait sur ses tympans comme sur une grosse caisse. L'état de Sylvaine lui interdisait de la manipuler, de lui poser un garrot, de la soulever. Il devait pourtant la sortir de là, vite. Il s'approcha d'elle jusqu'à ce que sa tête ne soit plus qu'à 10 centimètres de la sienne. Elle se vidait de son sang, de sa vie. « Sylvaine, tu m'entends ?» Une vague lueur s'alluma dans les yeux de la jeune femme. Elle l'entendait, le comprenait. Edmé prit une profonde inspiration pour chasser de sa voix toute trace de panique et de détresse. « Je peux pas te porter, tu comprends? Il faut que je prévienne le SAMU. Je fais au plus vite. Tiens le coup, hein ?» Il se redressa, se pencha à nouveau sur Sylvaine, murmura tout près de sa bouche. « On n'a pas fini de faire équipe, tous les deux. » Un sourire affleura sur les lèvres déjà exsangues de Sylvaine. Ou était-ce une illusion suscitée par le désir d'Edmé? Il fut déchiré de la tête aux pieds lorsqu'il s'éloigna d'elle. Ses yeux s'embuèrent. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré? Ne jamais laisser une femme vous entrer dans la peau, bon Dieu, c'est la fin de la tranquillité. Il retourna devant le pilastre du portail et appuya sur la sonnette d'un doigt tremblant de rage. Le projecteur déversa sur lui son flot brutal de lumière.